VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 13h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. On commence par les États-Unis. Les Américains commémorent aujourd'hui le 14e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001 qui ont fait près de 3000 morts à New York, à Washington et à Shanksville en Pennsylvanie. Le président Barack Obama, son épouse et tout le personnel de la Maison Blanche ont observé dans la matinée une minute de silence en l'honneur des victimes. Dans l'après-midi, le chef de l'exécutif se rend dans une installation militaire près de Washington à Fort Meade pour des discussions avec des militaires et autres membres des services de sécurité qui assurent la protection du pays. Toujours aux États-Unis, l'accord sur le programme nucléaire iranien a survécu à un vote de procédure hier au Sénat. Les démocrates ont fait bloc contre la résolution de désapprobation introduite par les républicains, mais ce dernier compte néanmoins poursuivre la bataille de procédure afin d'empêcher l'application de l'accord. Au micro de Timothée Donangmaï, l'analyste du professeur Walid Fares, il est conseiller du Congrès américain en matière de lutte contre le terrorisme.
La Maison-Blanche savait qu'elle avait un bloc qui pouvait bloquer les efforts de la majorité républicaine pour empêcher l'application de l'accord avec l'Iran. À ce moment-là, l'administration peut signer cet accord en loi. Mais il ne faut pas aller trop vite, car la majorité républicaine a d'autres procédures légales, y compris de changer la discussion d'un accord à un traité. Je pense que le président Obama peut aller exécuter ce traité. Il aura quand même à faire face à des mesures procédurales de la part des républicains.
Les républicains pensaient que la proximité de l'anniversaire du 11 septembre aurait pu inverser la tendance, mais apparemment, ça n'a pas été le cas.
Je ne pense pas que les choses sont aussi émotionnelles et reliées à des symboles. En fait, ce qui a décidé de ce résultat, c'était les élections de l'année passée où les démocrates ont maintenu le pouvoir de blocage à l'intérieur du Sénat. Et je pense que l'administration le savait déjà. Ce que l'administration ne pouvait pas calculer, c'est le nombre exact. Et nous avons vu qu'il y a eu 2 défections chez les démocrates, mais même avec ces défections, cela n'a pas beaucoup changé. Mais il faut faire attention au fait que, quoi que l'administration maintenant peut appliquer, il y a des choses qu'elle va demander à cette majorité que la majorité va refuser. Elle sera sur la défensive, y compris d'enlever les lois ou de changer les lois qui mettent des sanctions sur l'Iran. Donc le président pourra enlever les sanctions exécutives, par ordre exécutif, mais pas les sanctions par vote légal jusqu'à la fin du mandat.
C'est aujourd'hui le 14e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001 ici aux États-Unis. Sous quel signe les Américains marquent-ils cet événement?
Il y a le côté positif et il y a plusieurs côtés négatifs. Le côté positif, c'est que l'organisation initiale, Al-Qaïda, qui a attaqué les États-Unis, a perdu beaucoup. D'abord son chef et fondateur, beaucoup de ses commandants, y compris Al-Awlaki, au Yémen. Pas mal de bases qu'elle avait en Irak, en Afghanistan et dans d'autres pays du monde. Mais elle a été remplacée par une autre force jihadiste qui, plus est, elle a cette force qui est l'État islamique. D'un point de vue symbolique, Al-Qaïda a probablement été amoindrie, mais du point de vue stratégique, la force jihadiste a grandi de façon qu'elle existe maintenant dans 17 pays et qu'elle contrôle au moins 2 grandes zones en Irak et en Syrie et une zone en Libye. Donc le peuple américain, le gouvernement américain, malgré les divisions, l'administration et le Congrès, doivent s'unir et unir leurs efforts contre cette agence terroriste.
Le professeur Walid Fares, conseiller du Congrès américain en matière de lutte contre le terrorisme. La course à la Maison-Blanche, alors que les primaires se rapprochent, de nouveaux sondages viennent consolider l'avance du milliardaire Donald Trump dans le camp républicain et le recul de l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton. Côté démocrate, plus de précisions d'Ilidico.
À moins de 5 mois des primaires, le mania de l'immobilier, Donald Trump ne cesse de monter dans les sondages. Dans une nouvelle étude de CNN, il recueille 32% des intentions de vote, consolidant sa première place chez les républicains. Trump est suivi par Ben Carson, un neurochirurgien à la retraite dont le tact et la foi sont appréciés par les électeurs conservateurs. Quant au républicain Jeb Bush, fils et frère des anciens présidents Bush, il est loin derrière dans les sondages. Du côté démocrate, la chute d'Hillary Clinton se confirme. Les sondeurs prennent le cas de l'Iowa, premier État à se rendre aux urnes dès février 2016. On se souvient qu'en 2008, Cet État a été le théâtre de la défaite d'Hillary Clinton face à Barack Obama. Les résultats publiés hier montrent une concurrence très serrée. Le sénateur Bernie Sanders devance légèrement l'ex-chef de la diplomatie américaine avec 41% des intentions de vote contre 40%. Cette chute d'Hillary Clinton fait suite à la polémique sur sa messagerie privée lorsqu'elle était secrétaire d'État de 2009 à 2013.
Il est 15h05 à Bujumbura.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Burundi, le général Prime Niyongabo, chef d'état-major de l'armée, a échappé de peu aujourd'hui à une embuscade contre son convoi à Bujumbura, au cours de laquelle 7 personnes ont été tuées. C'est ce qu'annonce l'AFP, citant des sources policières. Un haut gradé de la police précise que 4 militaires de l'escorte du général ont péri, ainsi qu'une policière, 2 assaillants ont été tués et un troisième capturé. Selon le général Godefroy Bizimana, directeur adjoint de la police, les forces de sécurité traquent actuellement les auteurs de l'attaque. Et toujours au Burundi, la contestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza est un mouvement insurrectionnel initié par les principaux dirigeants de l'opposition et de la société civile. C'est en tout cas l'avis de la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur le mouvement insurrectionnel déclenché le 26 avril. Les magistrats affirment, d'après l'AFP, que les organisateurs des manifestations étaient en concertation étroite avec ceux qui préparaient le coup d'État des 13 et 14 mai. Le putsch est donc venu en couronnement de l'insurrection, juge la commission présidée par Adolphe Manirakiza, premier substitut du procureur général. En Côte d'Ivoire, un mort et des blessé hier dans des heurts, principalement dans l'Ouest, à propos de la candidature à la réélection du président Alassane Ouattara. Les détails, Bagassi Koura.
Les heurts se sont produits notamment dans la région natale de l'ancien président Laurent Gbagbo. Selon l'AFP, les jeunes BT, l'ethnie de M. Gbagbo, ont érigé des barrages à Gagnoa, 230 km au nord-ouest d'Abidjan, sa ville natale, ainsi qu'à plusieurs carrefours des environs, bloquant la circulation. Ces manifestations font suite à la publication mercredi par le Conseil constitutionnel ivoirien de la liste définitive des candidats à la présidentielle, dont M. Ouattara, autorisé à briguer un second mandat. Le président sortant est le favori de ce scrutin, mais une partie de l'opposition favorable à l'ancien président Laurent Gbagbo et qui conteste l'éligibilité de M. Ouattara avait appelé à des marches ce jeudi.
Le Fonds monétaire international a tenu à réitérer son engagement à appuyer le Libéria, dont l'économie se remet toujours de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Camille Gros-Didier.
On sait que le FMI a déjà fait une entorse à ses règles pour aider les 3 pays d'Afrique de l'Ouest affectés par l'épidémie d'Ebola, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Mais jeudi, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, s'est engagée à faire davantage. Au terme d'entretien à Monrovia avec la présidente Ellen Johnson Sirleaf, Madame Lagarde a salué les efforts héroïques du Libéria face à la maladie. Le Libéria est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à se déclarer début septembre libre du virus qui a fait environ 4 800 morts sur plus de 11 000 cas en 18 mois. Alors que la croissance plafonnait aux alentours des 8 % avant la crise, elle est en chute libre depuis. Le FMI a déjà fourni environ 130 millions de dollars en nouveaux financements et en allègement de la dette au Libéria, a rappelé Mme Lagarde. Vous disposez d'une feuille de route, vous avez un plan et nous voulons coopérer avec vous, a-t-elle dit lors d'un point de presse à Monrovia. En plus de l'épidémie d'Ebola, l'économie libérienne se ressent de la chute des prix des produits de base, du fait notamment du ralentissement de la croissance en Chine. Madame Lagarde a appelé le gouvernement libérien à accorder priorité à 3 secteurs. Les infrastructures, la diversification de l'économie et les investissements dans le capital humain.
Le président ukrainien Petro Poroshenko a fait part de son optimisme aujourd'hui quant à l'évolution du processus de paix en Ukraine, soulignant que le cessez-le-feu n'était plus un rêve désormais. Cette énième trêve semble pour l'heure la plus solide. Pendant ces 7 premiers jours, aucun militaire n'a été tué dans les combats. Le président Poroshenko a prévenu que le risque d'escalade n'avait cependant pas disparu. Au Yémen, au moins 20 civils ont été tués aujourd'hui par l'explosion de roquettes tirées par les rebelles chiites sur un marché de la ville de Marib, à l'est de la capitale yéménite Sanaa, ont indiqué des témoins des services de secours. L'attaque est intervenue quelques heures après un raid aérien de l'aviation et de la coalition arabe soutenant le gouvernement qui a tué cette rebelle Otis. Merci de nous avoir suivis, Jean-Roger Bion à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes sur la même station.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.